Ce soir-là, il lui en fallut user plusieurs fois comme nous allons le voir. La commanderie Saint-Marc se trouvait au sud-est de la ville. Il était ainsi fort probable que le passage se trouvât lui aussi dans cette direction. Dans un premier temps, Saint-Loup pouvait, de ce fait, limiter géographiquement ses recherches. Il se souvint alors de la phrase qu'il avait dite lui-même à Jacques de Molay, qui dans la prison du Temple s'était demandé comment l'apothicaire avait fait pour le voir quand leurs cellules étaient séparées par un mur. Parfois, il suffit de monter un peu le niveau de son regard pour voir mieux ce qu'il se passe sur la terre. En conséquence, il leva les yeux vers le plafond de la crypte et y chercha un indice qui pût révéler l'existence d'un passage au sud-est, une variation dans les voûtes, une asymétrie. Mais après une longue inspection, il ne trouva rien. Il grimaça et se remit à tourner en rond jusqu'à ce que soudain un sourire déforma les traits de son long visage. Une maxime d'Anaxagore venait de résonner dans sa tête. Le visible ouvre nos regards sur l'invisible. Alors, Andreas retourna parmi les pèlerins devant le martyrium et s'agenouilla près des reliques du saint, avec force mimique pieuse, tout en murmurant une prière dont le sarcasme certainement échappa bien plus à ses voisins qu'il n'échappera au lecteur. Ô vous, vénérable relique de Saint-Aignan, messagère d'espérance, par le saint ombilique de Marie, par la sainte tunique du Christ et son saint prépuce, conduisez dans la divine lumière le misérable pèlerin plongé dans les ténèbres. Puis, se relevant, il se saisit discrètement de l'un des nombreux cierges allumés là par les voyageurs pénitents, et d'un pas exagérément solennel retourna vers le sud-est de la crypte, comme s'il se fût trouvé dans une procession, tenant entre ses mains la petite bougie. Les yeux rivés sur Issel, il refit alors le trajet qu'il avait effectué plus tôt, mais avec une grande lenteur cette fois, et beaucoup de précautions. Soudain, le miracle qu'il avait appelé de ses vœux se produisit. La flamme se mit à vaciller, soufflée par un invisible courant d'air. L'apothicaire pinça la mèche du cierge entre ses doigts, avec un air satisfait, et se dirigea tout droit vers l'alcôve devant lui. Camouflé par la pénombre, il se retourna pour s'assurer que personne ne regardait dans cette direction, puis se glissa à l'intérieur de l'abri creusé dans la pierre. Tout au fond, dissimulé par une haute stalle, il découvrit enfin une ouverture dans laquelle il se faufila sans faire de bruit. Béni sois-tu, Anaxagore. Tout en songeant que son sort ces derniers jours semblait étroitement lié au monde souterrain, et y trouvant immanquablement quelque analogie avec l'allégorie de la caverne de la République de Platon, il avança dans l'obscurité et attendit d'être suffisamment loin de la crypte pour allumer sa bougie, car ici la lumière était connaissance. Certes, il était bien heureux d'avoir su trouver ce secret passage, mais il ne voulait pas se réjouir trop vite. Après tout, sinon cette ancienne rumeur colportée par Colin, rien ne prouvait que ce corridor menât bien à la commanderie Saint-Marc. Et quand bien même ce serait le cas, encore faudrait-il y entrer et délivrer Robin. Le plus dur restait à faire. Toutefois, après une longue marche, des inscriptions sur les murs vinrent appuyer la thèse du charpentier. En premier, ou en dernier si l'on considérait que le point de départ était l'autre bout du tunnel, on avait gravé sur le mur le début d'un psaume biblique. « Non nobis domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam » qu'Andreas reconnut pour être la devise des Templiers. Plus loin, le dessin de deux chevaliers partageant un même cheval et portant sur leur tunique la longue croix pâtée. Plus loin encore, un texte avait été inscrit dans la pierre et qui commençait ainsi « Nos parlons premièrement à tous eos qui m'esprit ségré leur propre volontés et désirent au pur corège servir de chevalerie au souverain roi. » En bas de cet incipit avait été tracé l'Abraxas Panté, sceau de l'ordre du Temple. L'apothicaire reprit sa marche avec enthousiasme. Il était bien sur la bonne voie. Le couloir, qui de plus en plus obscur et froid s'était enfoncé sous la terre, commençait enfin à remonter. Soudain, alors qu'il avançait péniblement à la seule lueur de sa fragile bougie, Andreas entendit au loin un cri étouffé, puis un autre. Aussitôt il tressaillit, puis resta comme pétrifié. Quelqu'un hurlait sous des coups de fouet.